18h et quelques secondes, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le WMM, me dit-on, en DAB+. 18h, c'est toujours l'heure de la relève.
La relève, un lundi sur deux à 18h, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonsoir, une demi-heure avec les talents de demain, c'est le programme de la relève. Ce soir, on vous promet une émission avec 0% de drame et 100% de rire. Mes invités sont quotidiens. Bonjour Alexandre Ruby, Noémie Moncel et Léa Constance Piette. Vous êtes trois. Je crois que c'est la première fois pour moi que vous êtes à trois dans ce studio pour la relève. Et donc, on est trois fois contents. Et vous ?
Mais très content.
Très, très content.
Bonsoir Paris. Bonsoir le monde, parce qu'on est sur le web aussi, non ?
Ah oui, là, vous êtes dans le monde entier.
Très bien, bonsoir le monde.
On vous entend partout.
C'est impressionnant.
Vous êtes à l'affiche d'un spectacle qui est à l'affiche jusqu'au 31 décembre de cette année, qui est salué par la critique. Il fait partie de la liste des spectacles à voir selon Télérama, alors tout est dit. C'est le Chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors je vais maintenant faire ce que je préfère, donner les dates, les heures, tout ça. Je vais essayer de ne pas me tromper. Si je me trompe, allez voir sur le site web, les informations seront à jour.
Sinon, Christophe, je peux le faire. Nous jouons jusqu'au 31 décembre.
À 20h le 31 décembre.
Mais non, c'est ce que je vous ai dit. Ça a eu un changement d'horaire. On joue jusqu'au 31 décembre, du mercredi au dimanche, à 20h30, le samedi à 16h et le dimanche à 16h. Pour les personnes qui souhaiteraient ne payer que 10 €, eh bien, il y a un tarif pour les moins de 26 ans, le mercredi et jeudi. Et ceux qui veulent payer plein pot et s'en mettre plein la panse, n'hésitez pas le week-end.
Mais enfin, ceux qui ont plus de 26 euros, c'est jamais, plus de 26 ans, oui. C'est jamais moins de 10 euros.
Non.
Bon, allez, 2 heures de spectacle qui commence avec un cheval qui a mangé un chapeau décoré de fleurs. Je vous laisse raconter l'argument à l'un de vous. De cette pièce, le chapeau de paille d'Italie.
On se passe le fond.
Alors, c'est un jour de mariage. Nous avons Fadinar, personnage principal, et il est dans le bois de Vincennes. Quand tout à coup,
il s'aperçoit que son cheval est en train de mâchonner quelque chose qui ressemble à quoi ?
Une sorte de bouchon de paille. Et en fait, c'est un chapeau. Et il découvre que ce chapeau appartenait à
une dame qui était en train de fricoter avec un militaire et il s'enfuit lorsqu'il
rentre chez lui et voilà, le militaire et la dame arrivent pour demander absolument qu'il ramène le même chapeau quoi, pour qu'on retrouve le chapeau de cette dame.
Sinon, l'homme de cette dame va s'apercevoir qu'elle est allée fricoter au bois de Vincennes avec le chapeau qu'il lui avait offert. Enfin, vous vous imaginez après.
Et le problème de ce pauvre
Fadinar,
je vais me tromper plusieurs fois sur son nom, c'est que il
et
lui doit se marier ce jour-là.
Exactement.
Il n'a autre chose à faire que d'aller chercher un chapeau de paille.
Tout à fait.
Donc il lui arrive plein d'aventures, de mésaventures plutôt. En fait, c'est une succession de mésaventures. C'est souvent ça qui nous fait rire d'ailleurs, c'est les mésaventures.
Alors c'est une variation sur le mariage bourgeois empêché comme dans plusieurs comédies du 19e siècle. Qu'est-ce qui fait la particularité de celle-là selon vous ? Pareil, hein, si vous voulez continuer comme ça. Là, vous nous mettez bien dans l'ambiance de la pièce où, où les répliques fusent. Les unes après les autres.
Il y a quand même quelque chose de social qui est assez amusant, enfin, et en même temps, c'est que donc, la noce, la mariée, ils viennent de la province et ils se retrouvent à Paris. Et même parfois, ils se retrouvent même à des aristocrates. Donc, je dirais le petit plus de ce vaudeville-là, c'est le côté différences dans les niveaux sociaux. Moi je dirais que c'est le petit plus, mais après c'est ce système de vaudeville, ça reste des situations malencontreuses qui font que les situations créent le rire, voilà.
Pareil, pas mieux.
Je sais pas quoi rajouter, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment le choc entre les deux classes sociales qui
j'ai entendu dire que c'était pour certains considérer que c'était une pièce qui était presque le début du théâtre de l'absurde, puis finalement il n'y a pas grand argument. Ça vous parle pas?
Une réflexion.
C'est pas grave. Hein. Vous l'avez entendu.
Oui, on l'a beaucoup entendu.
Ça me rassure, je suis pas. On est à la radio, mais je n'ai pas de voix.
Moi, je sais pas trop quoi penser. Je trouve pas que ça soit. Évidemment, les situations sont cocasses. Pour moi, c'est pas totalement absurde. Enfin,
c'est-à-dire que les prémices, quoi.
Voilà, ce serait les prémices, oui, exactement.
Parce qu'il n'y a plus vraiment d'arguments. C'est vrai qu'à un moment, tout le monde court et c'est plus très bien pourquoi et après quoi il court.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, je sais pas, moi, je veux pas à tout prix avoir.
Non, mais.
c'est comme vous voulez. Avant qu'on vous propose de la jouer, vous la connaissiez cette pièce, les uns, les autres, les unes, les autres.
Oui.
Les unes, l'autre, pardon.
Oui. Oui.
Vous en aviez quelle c'est une pièce que vous rêviez de jouer, par exemple, ou ça vous paraissait un peu vieillot, cette histoire de mariage au XXe siècle? Vous avez le droit de le dire, hein, personne n'écoute.
Non, je la connaissais par la mise en scène de la Comédie française avec comment il s'appelle, Pierre Ninet, qui jouait Fadinard, qui a quand même beaucoup tourné et tout ça. Mm-hmm. Mais sinon, je n'avais pas vraiment... je la connaissais. Je n'étais pas vraiment motivée pour la jouer ou quoi que ce soit. J'aimais bien, quoi.
Ouais, moi, je l'avais lu aussi et j'avais beaucoup aimé. Je trouvais que... Enfin, je préfère un peu La Biche à Phédo. Ah. Mais c'est vrai qu'en fait, maintenant que vous le dites, je pense que c'est le côté absurde.
Ça vaut le coup de venir ici.
Oui, moi j'avais
vos motivations profondes dans cette pièce.
Mais j'avais pas vu la mise en scène de la Comédie française, donc en rentrant dans ce projet, je m'attendais, enfin j'avais pas d'idée préétablie de ce qui allait se passer, et en tout cas j'ai beaucoup aimé ce qui se passe.
Et vous, Alexandre, si j'ai bien lu votre fiche, vous n'avez jamais fait de boulevard.
Je n'ai jamais
c'est
fait
votre première
de boulevard.
Fois.
Je n'ai non, oui, oui, il y a que à l'école où j'avais fait du Phédo. Mais j'ai déjà fait, non, moi j'ai fait du café-théâtre, donc ça se rapproche aussi. J'ai fait du two-man show. J'en ai écumé des bars, Christophe. Les cafés-théâtres où il y avait 30 places, Porte des Lilas, etc. etc. Oh là, il y a un peu plus de place.
Ouais, mais si on revient justement à cette pièce-là, elle vous intéressait? Elle vous... Parce que je ne l'ai pas lue, moi j'avoue, je ne l'ai pas lue, je l'ai juste vue, et c'est très bien d'avoir vu. Mais quand on la lit, est-ce qu'on sent toute cette énergie, tout ce potentiel qu'elle a
Non, déjà c'est très dur de lire du théâtre, surtout quand il y a beaucoup de personnages avec des petites répliques comme
ça. Là, vous êtes 19 sur scène. Hein.
Ouais, on est 19 sur scène, et donc il vaut mieux la lire à 19. Parce que là, on arrive mieux à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais après, c'est sûr que quand on la voit, on se dit, oui, il y a un potentiel comique, parce que les situations sont assez folles. Donc on s'amuse là-dessus, mais il y a quand même des choses qui ont été coupées, hein, dans le sens où il y a des choses qui étaient très un peu borderline, parce que le père Labiche n'était pas... c'était une époque autant bénie des colonies, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des choses qui ont été coupées, pas énormes, mais il faut quand même le signaler. Mais d'ailleurs, Alain Françon, mettant en scène dans un des interviews, il dit bien qui était cet homme, quoi. C'était pas un enfant de cœur, Labiche.
Je ne connais pas. Mais justement, je rebondis sur ce que vous dites. Si vous dites qu'à la lire, on ne se rend pas forcément compte, comment on choisit une pièce? C'est le metteur en scène? C'est la manière dont il vous en parle qui vous donne envie d'y aller?
Comment on choisit
Qu'est-ce qui vous motive à y aller?
Ah bah l'argent. Attendez Christophe, il faut quand même payer le loyer à Paris, hein, vous ne vous rendez pas compte? Non mais c'est disons que non mais là c'est moi j'ai eu la chance de déjà jouer au théâtre de la Porte Saint-Martin avec Michel Bouquet et Michel Faux dans Tartuffe. C'est déjà un théâtre qui a une histoire, une âme, c'est des conditions de travail qui sont vraiment très très belles, et Alain Françon est un metteur en scène extrêmement intelligent sur le texte. Et moi, c'était mon parrain à l'école, donc c'est un compagnonnage.
J'étais à Strasbourg, vous.
Voilà, moi, j'étais à l'école de Strasbourg. Et donc, c'est un compagnonnage. Et après, quand on propose un projet avec beaucoup de monde sur scène, avec des très beaux costumes, des très belles lumières, trois musiciens en direct sur scène, je pense que tout acteur va dire oui.
Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est presque plus attirant que le texte en lui-même. Allez-y, hein, qui veut répondre.
C'est certain que lorsque... Enfin bon...
On va revenir vous, parce que quand même, vous deux...
Elles sont spéciales, tout de même.
Non, mais vous avez mis et Léa Constance Piette. Vous êtes, vous, en alternance, en même temps. Ouais. Vous êtes en même temps, vous suivez un cours, et dans le cadre de votre formation, vous êtes au théâtre en ce moment.
Voilà. En fait, on est dans une école supérieure de théâtre.
On va donner son nom,
c'est l'ESCA. Le studio ESCA, voilà, exactement.
À Nières-sur-Seine.
À Nières-sur-Seine, exactement. Et donc, voilà, on a la chance de pouvoir travailler en même temps qu'on a cours le matin. Donc on a la possibilité de passer des auditions pour... pour ma part, lorsque j'ai vu Alain Françon et Feu Chatterton sur l'annonce qui m'était destinée, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille sans me poser de questions sur le texte. Après, évidemment, comme je vous avais dit, j'avais lu la pièce, donc je savais qu'elle me plaisait. Mais c'est vrai que j'étais plus attirée par l'idée de travailler avec un metteur en scène comme Alain Françon, que j'admire, et surtout aussi les Feux Chatterton, qui sont un groupe de musique, oui, que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'écoutais avant de les avoir rencontrés.
Je croyais que vous alliez dire quand j'étais jeune et j'ai eu peur.
Non. avant de les avoir rencontrés, oui, j'ai toujours beaucoup aimé ce groupe. Voilà.
Et vous?
Bah moi, c'est à peu près... Enfin, c'est pareil que Léa, en fait. Dès qu'on voit le nom d'Alain Françon et Feux Chatterton, on se dit « Waouh !»
Il représente quoi, Alain Françon? Parce qu'il a dirigé pendant plusieurs années le Théâtre de la Colline, mais je sais à peine si vous étiez né à l'époque. Donc...
moi, c'est son travail et c'est la manière dont il monte ses pièces qui m'ont toujours un peu...
Vous aviez déjà vu du Françon?
J'avais vu un peu. Pas énormément, j'avoue, je ne vais pas vous mentir. Hein.
Non, mais...
J'avais vu, oui, deux, trois trucs et j'avais beaucoup aimé.
Ouais. Nous, on a en fait.
Moi, ce que j'essaie de savoir, c'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que vous aimez, c'est le travail qu'il fait avec les acteurs, c'est la vision qu'il a des pièces,
c'est sa précision, je dirais. Il y a quelque chose de très précis qui est très moi qui me parle en tout cas.
L'esthétique, les images qu'il crée avec les comédiens qui sont sur scène et tout ce qui se passe autour, donc les costumes. Enfin, il n'est pas forcément directement responsable des costumes et c'est sa vision, sa vision et ce qui moi m'a poussée à vraiment vouloir travailler avec lui. En fait, forcément, avant de travailler avec lui, on savait pas, enfin moi je ne savais pas quelle était sa façon de diriger ses comédiens, mais en voyant son travail, je pouvais essayer de deviner comment ça allait se passer. Donc,
et alors ça a été conforme à ce que vous aviez deviné?
En
tout cas, si je comprends bien, il y a beaucoup de justesse, de précision, donc c'est une école de rigueur.
Oui, tout à fait. Oui. C'était vraiment, il y avait des fois où il nous disait, ça se joue à 3 cm sur le plateau, c'est-à-dire que si on était à 3 cm plus en arrière ou plus en avant, ça changeait l'image. Donc oui, c'était d'une précision extrême pour nous, pour toi, Alexandre, par exemple.
Et comme il a piqué à Godard, c'est pas juste des places, mais c'est des places justes.
C'est vrai.
Pas la même.
Et vous, c'est pareil, est-ce que vous aviez déjà travaillé, donc vous avez retrouvé ce que vous aviez aimé la première fois?
Oui. Michel Faux, Alain Françon, on ne peut pas être plus opposé. C'est-à-dire qu'un metteur en scène totalement baroque est dans l'emphase, mais une emphase qui est incarnée. Et Alain, Alain Françon, il y a plus de retenue. Mais il y a une intelligence aussi sur le texte. En fait, c'est pas un metteur en scène d'effet. Donc par rapport à l'emphase de Faux, par exemple, mais les deux spectacles ont autant de puissance. Les deux façons de faire du théâtre ont autant de puissance pour moi. On en fait des effets, bien évidemment, puisque là, en plus, on joue à un vaudeville. Mais il n'a pas cherché à en faire. Il est resté sur les situations et le texte. Le cadre, il est très défini. À nous de trouver notre liberté dans ce cadre. Et c'est là que c'est jouitif pour les interprètes et après pour les spectateurs aussi.
Alors j'ai dit tout à l'heure, vous êtes 18 ou 19 sur scène, j'ai peur d'avoir dit une bêtise, je crois que c'est 18.
19.
C'est 19, c'est bien 19. Mmh. Je crois que j'avais dit une bêtise. Vous êtes 19, comment vous faites à 19 pour avoir la même énergie tous les soirs? Vous êtes à l'unisson, vous jouez tous. Il y a vraiment, quand on le regarde, il y a quelque chose d'un groupe qui joue tous la même chose.
Justement,
je me demande comment vous faites.
Le cadre que nous a donné le metteur en scène est tellement précis que c'est très... Je dirais pas facile, parce que c'est pas facile de monter sur scène et tous les soirs de quand même de réactiver tout ça. Mais enfin, si quand même, comme tout le balisage est extrêmement précis, vous suivez les balises et vous mettez l'énergie du jour dedans, l'écoute, bien évidemment. Et après, c'est parti. Comme on n'est pas, c'est pas un metteur en scène qui nous laisse comme ça errer ou ne pas savoir quoi faire. Et c'est là que c'est fatigant. Généralement, dans la vie, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, c'est fatigant.
C'est plus fatigant, ouais. Là, c'est-à-dire que c'est tellement précis qu'on sait que, enfin, on sait exactement ce qu'on va faire à chaque seconde. Il n'y a pas vraiment lieu à, bon, en tout cas pour nous, à l'improvisation. Et déjà quelque part, ça nous donne une espèce de solidité. Enfin, je parle pour moi.
Mais parlez pour vous, Léa.
C'est ce qu'on vous demande.
Une sorte de solidité où. J'ai pleinement confiance en ce qui a été créé par Alain Françon.
Et donc parce que jouent les autres en même temps.
Et donc et voilà, exactement. On est en confiance déjà aussi parce que il faut le dire aussi l'ambiance du groupe est formidable. Enfin, il n'y a pas un seul élément qui n'est pas enfin un seul élément perturbateur dans le groupe, tout le monde est adorable, on se retrouve pour faire des échauffements de chant tous ensemble tous les jours. Enfin vraiment, il y a aussi ce point-là qui est super important, et c'est que c'est vraiment très familial comme ambiance.
Justement, là, vous qui êtes Noémie et Léa, vous qui êtes apprentis, on dit apprentis, hein, c'est
oui,
ça.
Oui,
c'est est-ce
ça.
Que vous apprenez en regardant les autres?
Ah oui.
Ah oui.
Est-ce
oui,
que c'est...
Et elle se moque de nous aussi. Non, mais disons-le.
Surtout oui, de toi. Non, oui, on... Enfin, pardon. Non, je vais pas te couper. Oui, on apprend énormément, enfin, d'autant plus que...
Parce que vous, on vous voit beaucoup courir.
Oui. Oui, c'est vrai, on nous voit beaucoup courir, chanter, réagir. On est vraiment un cœur de réaction, donc on est tout le temps en réaction sans vraiment parler. Mais bien sûr, on apprend énormément en travaillant avec vous, les comédiens. Comment ils gèrent aussi des petits problèmes techniques, aussi... Le travail d'Alain Françon, c'était formidable de voir comment il a travaillé. En fait, j'ai presque l'impression au début qu'on regardait la pièce au ralenti pour que vraiment chaque mouvement soit extrêmement précis. Et puis, au bout d'un moment, il a dit « Allez, maintenant, vous resserrez tout ça. » Et dès que ça a été resserré, c'est un peu comme un film, en fait, qu'on avait mis...
On aurait accéléré d'un coup.
Voilà, qu'on aurait accéléré d'un coup. Et d'un coup, ça prend forme et c'est absolument formidable. Et... Moi, c'est surtout ça que j'ai trouvé passionnant. Et évidemment, le travail des comédiens à observer, c'est très inspirant.
Si je peux me permettre, en fait, vous, votre rapport à vous aussi, est aussi important parce que je ne dis pas qu'on n'a plus de fraîcheur et de folie hein, après, 15 ans, après 15 ans quand on fait ce métier, mais vous avez une fraîcheur aussi, une envie... Et aussi
qui vous porte, vous.
Et qui, je trouve, qui mettent. Enfin, ça met un sacré coup de fouet aussi dans l'ambiance, dans l'atmosphère du travail, sur scène, etc. Donc, c'est très intéressant. C'est bien de mélanger des personnes qui sont encore en apprentissage avec des personnes qui, soi-disant, ont déjà appris.
Par rapport
je
à.
Je sais pas si j'ai appris des choses. Je sais plus où j'en suis, Christophe. Qu'est-ce qui se passe?
Il y aura tout à l'heure une question pour vous aider à vous.
Ah, merci.
Mais pour, en tant que spectateur, une chose qui frappe, en tout cas, c'est que vous êtes tous dans la même énergie, ce qui n'arrive pas toujours dans tous les spectacles. Et oui, je ne vais pas demander l'âge des acteurs, mais on doit être. Il va bien avoir 40 ans entre le plus jeune et le plus âgé.
Ouais, c'est ça. Hein.
Bon,
ouais,
plus, même
plus. Ouais. Je crois qu'on est autour de 40.
Je ne sais pas comment il arrive à réussir à mettre tout le monde dans cette énergie-là. Et on ne sent pas qu'il y a des niveaux de jeu et des types de jeux différents. Parce qu'il ne joue pas pareil à toutes les époques.
Ouais, peut-être aussi ça se joue dans cette fameuse phrase, ce fameux système qui nous a mis en place, qui est la continuité textuelle. Le fait qu'on ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de temps entre les répliques. Ouais. Sauf un temps ou un silence qui est décidé. Mais sinon, le fait que chacun, on embraye sur la réplique de l'autre, c'est ça qui crée une énergie commune pour tout le monde, je trouve.
Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Vous êtes d'accord, Léa?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec
vous.
Oui.
Irez loin, vous irez loin. Et ben, allez, on va écouter un peu de musique comme avec vous sur scène, hein, puisqu'il y a c'est un spectacle musical. On en reparle tout de suite après. On reparle tout de suite après, donc, du Chapeau de paille d'Italie, actuellement au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est une pièce d'Eugène Labiche, c'est pas facile à dire, et mise en scène par Alain Françon.
Un pigeon défunt pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse. Là-bas, à présent l'orage dort sous la grève. Tout corps gétto, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposé. Viens là, le soleil perce l'oiseau rayé de ses raides et doux rayons comme des évis et une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau rayé de serait si doux. Rayons comme des aiguilles, une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain, se voilà-t-il au regard éteint. Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire arrive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux. Rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux. Rayons comme des aiguilles, une poupée vaudou. Rien que je te mette à briller des l'endroit lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le palais de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des l'endroit lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le palais de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
C'était Feu Chatterton.
Ah. Oui, c'était Feu
Chatterton. C'était un oiseau et c'était bien Feu Chatterton. Ça s'appelait l'oiseau, hein, c'est ça, vous confirmez?
Moi, je confirme. Je voulais essayer d'imiter Arthur le chanteur. Ah, bon.
Mais désolé.
Pas encore.
La Relève sur Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur le web.
On parle toujours d'un chapeau de paille d'Italie avec Alexandre Rubin, Noémie Moncel et Léa Constance Piette. On va quand même, il faut quand même donner les je vais pas pouvoir citer les
43 noms. Top, c'est parti Christophe, attention.
Attention, non, on va créditer quand même l'équipe technique. Donc au décor,
Jacques Gabel.
Bravo, les lumières sont de Joël Urbecht. Voilà. Les costumes,
Marie Larocca.
La chorégraphie,
Emma Kate Nelson.
Attention, hein, si vous hésitez, ça va se très vite. Hein. Les perruques et le maquillage.
Cécile Kretschmann.
Cécile Kretschmann est l'assistante à la mise en scène.
C'est
Franziska
Bauer.
Et elle
magnifique,
travaille donc
Franziska.
Avec
Alain grande
Franson.
Assistante.
Génial.
C'est quoi une grande assistante?
Une grande assistante, c'est quelqu'un qui est bien sûr à l'écoute du metteur en scène, mais qui fait le tampon entre l'équipe artistique, les comédiennes, les comédiens et le metteur en scène. Et elle le fait avec une élégance, une précision, une intelligence. Et c'est l'assistante ou l'assistant du metteur en scène, c'est capital. Mmh. Et là, c'est une perle.
D'accord. Bon. Mais si elle écoute l'émission, elle sera contente.
Ouais.
Elle le mérite.
Est-ce qu'on peut rappeler vos rôles aux uns aux autres? Alors, Léa, on commence avec vous.
Alors, moi, je fais partie de la noce et des invités de la baronne.
Oui, parce que pendant toute la pièce, il y a la noce qui doit toujours se tenir.
Voilà.
Et donc, il y a tous les invités qui sont là.
C'est un petit cœur qui est tout le temps présent. Petit groupe tout le temps présent. Voilà, je fais partie de ça.
Ils sont pot de colle.
Je fais une petite ouvrière aussi, ouvrière de la modiste.
Ah, de la modiste. Et
voilà.
Quand vous dites invité de la baronne.
Invité de la baronne.
Qui est cette baronne quand même?
La baronne, c'est la grande, c'est la baronne. Donc c'est ta cousine.
C'est la cousine d'Alexandre, donc.
C'est la cousine d'Alexandre, Achille de Rosalba. Et donc elle fait partie de l'histoire parce qu'elle a peut-être le chapeau. Recherché par Fadinard.
Ou un qui s'en approche.
Ou un qui s'en rapproche.
Qu'on pourrait peut-être tromper ce mari jaloux.
Voilà.
Peut-être.
Ouais, sauf qu'il est noir et qu'il est en crêpe de Chine.
Ouais, donc dommage.
Noémie.
Moi, je suis dans la noce, comme Léa, et je joue aussi la femme de chambre de la baronne Clotilde.
Très drôle. J'adore. Moi, Félix, je suis le serviteur, le larbin de Fadinard. Et je joue aussi un aristocrate, Achille de Rosalba.
Ah, mais alors vous avez un grand numéro à faire. On peut le dire quand même.
Ouais, ah je pense que vous Alain, il ne serait pas d'accord pour le numéro.
Ah, pardon.
Il
ne
faut pas faire des numéros. Non, je rigole. Non, non, il m'a laissé une petite latence là-dessus.
Vous sentez bien quand même que quand vous faites ce passage-là, il se passe quelque chose dans la salle.
Écoutez, peut-être parce que j'ai des origines écossaises, donc le kilt me parle, oui, parce que donc je porte un vrai kilt. Acheté à la Maison du Kilt à Paris, car la Maison du Kilt existe.
Ah, bah écoutez.
Donc on est sur de la laine écossaise, hein, des chaussettes en laine.
C'est ce qui fait tout, vous croyez ?
Vous savez, au début, non, le sautille physiquement, parce que c'est un aristo qui sautille. Ouais. Légèrement, mais c'est vrai que l'apport d'un costume pour un ou une interprète est assez fondamental. Hein. D'ailleurs, on l'a tous senti quand on a eu les costumes, on a fait un filage après, ça s'est pas très bien passé parce que au début les costumes c'est comme s'ils sortent du four, donc ils sont très serrés et après avec nos mouvements on les patine et et en fait ils épousent après nos corps. Et bon, c'est vrai quand on a un kilt sur scène c'est aussi un cadeau, donc il faut l'assumer. Et on s'amuse beaucoup avec Emmanuel, qui est ma partenaire.
Alors, je ne sais pas sur ces scènes. Je sais pas si c'est le metteur en scène ou si c'est la chorégraphe, parce qu'il y a un gros travail sur le corps. Il y a vous, il y a par exemple la mariée aussi, qui est incroyable, qui est quasiment un personnage de BD, par certains moments.
On l'appelle la désossée.
Je ne sais pas comment elle peut faire ça, c'est incroyable ce qu'elle fait.
Mais ça, on nous a laissé. On a eu quand même la chance de répéter pendant 2 mois et demi, ce qui est quand même beaucoup. Et donc, c'est pendant ces répétitions qu'on a eu le temps d'expérimenter tous les mouvements de tous. Hein.
Ouais.
C'est ça, c'est bien d'avoir du temps. De toute façon, c'est pour tout, Christophe, il faut avoir du temps, on est d'accord.
Je suis obsédé par ça. La radio, c'est que du temps,
Donnez-nous du temps pour faire les choses bien.
C'est ça.
C'est la chance du théâtre.
C'est ça, on a eu beaucoup de temps.
Quand il y a les moyens.
Exactement, quand il y a les moyens. Mais j'allais dire aussi qu'on avait notre chorégraphe, donc Emma, qui aussi s'est chargé de un peu nous filer des coups de main dès qu'on avait des petits... Dès qu'on séchait un peu sur les mouvements. Par exemple, pour les invités de la Baronne, c'est vrai qu'on a une espèce de toute petite chorégraphie. On a été beaucoup aidés par Emma pour ce genre de mouvement-là aussi. Voilà. Et pour la chorégraphie finale aussi,
oui, parce évidemment. Que ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est quand même c'est que vous jouez et vous chantez tous.
Voilà.
Oui. Et vous, votre école, la particularité qu'elle a, c'est que c'est une école où on apprend le théâtre, mais aussi le chant.
Oui, le chant et la danse.
Ouais, ils sont très forts. Ouais. Elles sont très fortes.
On a un cours de chant par semaine. Enfin, on ne peut pas assister forcément à tous les cours de chant par semaine parce que on est beaucoup et aussi parce qu'on travaille à côté. Mais on a des cours de chant et des cours de danse avec deux très bons chorégraphes et danseurs et avec notre professeur de chant qui est super aussi.
C'est capital le chant. Ça devrait être dans tous les cours de théâtre. Pour toutes les comédiennes et tous les comédiens, exactement. Pour trouver sa voix, trouver son souffle. Et même si on ne chante pas, le jour où vous retrouvez à jouer en plein air, sans micro, sans rien, ou même quand vous jouez dans des salles, il y a des salles en France qui sont fermées où l'acoustique est catastrophique, là, il faut utiliser son bas-ventre, il faut savoir gérer son souffle, et puis il faut aller jusqu'au dernier rang. Et c'est fabuleux. Chant obligatoire.
Vous êtes d'accord ?
Oui, très d'accord.
On ne l'a pas dit, vous êtes dans un des plus grands théâtres privés de Paris, peut-être même théâtre tout court de Paris, c'est 1000 places. Hein.
Oui, je crois que ça monte à 1050.
Mais apparemment,
moi, j'avais oublié de compter quelques rangs.
Ah ouais, les 50 là-haut, mais je crois qu'ils ne voient que le haut des têtes.
Ils ne voient pas de super
bien. Mais oui, c'est un grand.
Mais est-ce que c'est
quelque
chose de particulier de jouer dans un théâtre aussi grand? Est-ce que c'est une pression ou s'emporter par la salle?
Enfin, Alexandre a déjà joué à la Porte Saint-Martin. Donc...
Non, mais je vous en prie, Léa, donnez-nous votre santé avec Noémie.
Non, mais évidemment que c'est énorme. Déjà, on se dit, ce sont des gens qui se sont déplacés pour venir nous voir, donc il faut quand même, il faut vraiment qu'on
il n'y a pas que votre mère dans la salle.
Voilà, il faut vraiment pas qu'on fasse de bêtises. Et aussi, s'il y a quelque chose de fou, c'est le public renvoie quelque chose de très fort. Enfin, la propre énergie du public, on la sent. Nous, au début de la pièce, on a un rideau, un rideau doré qui cache. Qui est très très beau. Et donc nous, depuis les coulisses, on peut voir le public. Et moi, j'aime bien aller regarder et voir.
Il y a un œil tendre, non ?
C'est juste qu'il est un peu transparent, donc on peut voir.
Puis c'est un théâtre à l'italienne, donc on a l'impression d'avoir les spectateurs encore plus proches que nous, qu'une salle moderne où c'est plus un gradin droit. Donc, au final, les théâtres à l'italienne, on ne se rend pas compte du nombre de places. On ne dirait pas, je trouve qu'il y a 1000 places dans ce théâtre.
On dirait pas,
parce que
vrai.
Le théâtre à l'italienne est fait que c'est beaucoup plus ramassé. Vous mettez un mur de gradins de 1000, je pense que c'est beaucoup plus impressionnant.
Mais vous sentez l'énergie du public quand même.
Ah ouais.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui.
Et des musiciens, hein.
Oui,
parce
ils
que
sont
ça
là,
pulse,
c'est
hein.
En live,
surtout les musiciens.
Une
c'était...
batteuse.
Ouais.
Un guitariste et un au clavier au mini Moog. J'ai appris ce que c'était qu'un mini Moog.
C'est alors c'est quoi ?
Eh bien c'est une espèce de alors là si Alexandre il m'entend dire ça je crois il me semble que c'est une sorte d'orgue orgue synthé et on peut moduler le son. C'est-à-dire des sortes de choses comme ça.
J'aimerais quand même insister sur un point parce qu'on en a pas parlé. C'est une pièce qui date donc du début du 20e siècle.
Ouais. Oh, même avant, c'est pas
1871,
non ?
Il y a une lecture assez moderne qu'on est donnée aussi. On sent bien quand même que dans la manière dont il a été monté, et je vous regarde à dessein, on est à la radio malheureusement, personne ne sait, mais on voit bien le sort des femmes à cette époque-là. Vous, comme jeune fille, vous voyez ça comment ? Notamment le moment où il doit y avoir la nuit de noces, qui est un moment assez terrible dans cette pièce, on rit beaucoup.
Ouais, alors, clairement, la...
Je ne vais pas dire que c'est une pièce féministe, hein, ça serait mentir, non. Mais dans la manière dont vous l'avez montée, on sent bien tout ce poids-là.
Oui, bien sûr, on sent bien que la mariée est un peu quelque chose... Pas trop un être humain, elle est traînée un petit peu partout. Et,
c'est vrai qu'on ne lui demande jamais son avis.
On ne lui demande jamais son avis, il n'y a qu'à un moment dans la pièce où elle se révolte un petit peu. Moi je dirais pas non plus que c'est une pièce féministe, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Ça, par exemple, comme vous le disiez, la scène de la nuit de noces.
Il y a un malaise qui est perceptible.
Il y a un malaise qui est perceptible parce que il y a quelque chose où nous dans la noce on pleure, on rigole. Enfin, il y a quelque chose de très étrange. Et aussi parce qu'on sent le danger pour cette jeune fille en fait qui ne sait pas à quoi s'attendre. Et à cette époque-là, je pense que ouais. Voilà.
On va parler de tout autre chose. Parce que je vois le temps qui tourne. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire après ? Et de ce quoi vous avez envie ?
Tu veux parler
Allez-y, Noémie.
On a un projet en commun avec Léa. On va jouer au studio SK dans une pièce qui s'appelle « Là où le dos perd son nom » le 4 et le 5 décembre.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, donc en même temps, parallèlement.
En même temps, mais ça sera pendant nos jours de relâche.
Ne vous inquiétez pas. Moi.
et après, alors moi, pour ma part, je vais jouer en février aussi au studio SK. Ça sera une pièce de Pauline Salle.
Vous jouez aussi sur place dans votre
que c'est un théâtre aussi en même temps.
C'est génial, cet endroit.
Ouais, c'est génial.
Je suis content de vous avoir reçu. C'est pour en faire découvrir au plus grand nombre son existence.
Oui, vraiment, n'hésitez pas à venir parce qu'il y a des créations. Donc...
Ligne 13, la meilleure ligne de Paris. Vous descendez à Gabriel Péri.
Oui, non, mais
c'est
vraiment,
chouette.
C'est
chouette. Il y a un bar.
C'est chouette. C'est on peut faire nos propres créations. Ouais. Et puis aussi, il y a d'autres metteurs en scène qui viennent aussi. Enfin bref. Y a
et
plein
vous, Alexandre, après
passe.
Le 31 décembre, vous faites quoi ?
Moi, prochaine représentation, c'est Underground Birds avec la Kula Company, qui est une compagnie internationale de théâtre.
Celle avec laquelle vous jouez à Berlin ?
Exactement, qu'on va jouer à Berlin avec des actrices afghanes, une actrice israélienne, des acteurs norvégiens, italiens, allemands. Chacun parle dans sa langue maternelle et c'est surtitré dans la langue du pays où on joue.
Et vous allez jouer quoi ?
Underground Birds, c'est un road trip théâtral. On part de Londres au XVIe siècle et on va jusque dans la vallée d'Hindou Kush en Afghanistan au XXIe siècle. Donc c'est un voyage temporel, spatio-temporel. Voilà, on traverse les siècles. Et c'est assez festif. Et c'est bien le théâtre, c'est pas mal. Hein. Ça nous emmène loin aussi.
Là, je vois que vous touchez votre casquette, mais le chapeau de paille d'Italie, ça restera une expérience importante ? Les uns les autres, allez.
En grand,
oui. Oui, bien sûr.
Et bien pour les spectateurs, pardon, aussi. Donc c'est cool, tout le monde est content.
Oui.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci
à
vous.
Christophe.
Voilà,
c'est
on revient
la
quand
relève.
Vous voulez. La semaine prochaine.
C'est parti.
Merci donc.
Paris. 93.9 FM.
Merci Alexandre Ruby, Noémie Mancel, Léa Constance Piette, désolé d'avoir abîmé votre nom.
Non.
Je rappelle que vous êtes au théâtre de la Porte Saint-Martin, je vais essayer de le dire sans me tromper. Du mercredi au vendredi à 20h30, le samedi à 16h et 20h30, le dimanche à 16h. Et avec un tarif étudiant, moins de 26 ans. Voilà, l'émission était proposée et présentée par Christophe. Elle était réalisée par Alison. Vous retrouvez cette émission sur le site de Radio Campus Paris. En attendant, vous pouvez écouter toutes les premières de la saison. Le programme de Radio Campus, c'est jusqu'à 19h. Et puis après, c'est la matinale. Nous, on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.
Bravo.
Bonne soirée. Cool.
La Relève, un lundi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.